Chapitre 2. Eddie Dean. 1. Comme pour confirmer cette hypothèse, bien que totalement folle, ce que le pistolero voyait par l'ouverture s'éleva brusquement tout en opérant un glissement latéral. Le décor pivota. De nouveau cette sensation de vertige, celle de se sentir en équilibre sur un plateau à roulettes que des mains invisibles auraient bougé dans un sens et dans l'autre. Puis l'allée se divida, s'esquivant par le bord inférieur de la porte. Au passage, il vit un groupe de femmes vêtues du même uniforme rouge, debout dans un couloir plein d'acier. Malgré la douleur et la fatigue, il aurait aimé que la scène s'immobilisât, le temps de mieux comprendre ce qu'étaient ces objets en acier, des appareils de quelque type sans doute. L'un d'eux ressemblait vaguement à un four. La soldate, qui l'avait déjà vu, servait le gin commandé par la voix. Elle le versait d'une toute petite bouteille en verre dans un gobelet qui, bien que donnant l'impression d'être en verre, ne l'était sans doute pas. Mais ce qui lui était montré de cet endroit avait déjà disparu. Il y eut encore un autre de ces vertigineux virages, et son regard se retrouva fixé sur une porte de métal. Un mot y était inscrit en lettres lumineuses dans un petit rectangle foncé. Un mot qu'il sut lire. Libre. Léger glissement de son champ de vision vers le bas, et une main venue du côté droit de la porte ouverte où il plongeait le regard, se posa sur le bouton de cette autre porte fermée qu'il regardait. Il vit la manchette d'une chemise bleue suffisamment retroussée pour révéler une pilosité noire et drue, de fermes virgules qui descendaient en rang serré sur une main aux doigts effilés. L'un d'eux était orné d'une bague dont la pierre pouvait être un rubis ou un sourfeu, voire n'importe quelle imitation, conclut finalement le pistolero. La gemme était trop grosse et trop vulgaire pour être authentique. La porte en métal s'ouvrit, le mettant en présence des latrines les plus insolites qu'il eût jamais vues. Rien que du métal. Les contours de la porte d'acier se superposèrent à ceux de la porte sur la plage, et le pistolero l'entendit se refermer, perçut le claquement d'un loquet. Comme il n'eut pas à subir une autre de ces étourdissantes volte-face, il comprit que l'homme qui lui prêtait ses yeux s'était contenté de tendre la main derrière lui pour verrouiller le battant. Puis la vue changea quand même, opérant cette fois un simple quart de tour, et il se retrouva face à une glace, face à un visage qu'il connaissait, pour l'avoir vu précédemment sur une lame de tarot. Les mêmes yeux sombres, les mêmes cascades de mèches foncées, un visage calme et pourtant pâle. Et dans ses yeux, des yeux dont par leur propre entremise son regard découvrait à présent le reflet, le pistolero vit un peu de l'horreur, de la terreur qui avait hanté ceux de l'être chevauché par le singe sur la carte en question. L'homme tremblait. Il est malade, lui aussi. Puis, il se rappela Nort, le mangeur d'herbe de Tull. Un démon est en lui qui le possède. Le pistolero pensa qu'après tout, il savait peut-être ce qu'était l'héroïne. Quelque chose de comparable à l'herbe du diable. Un tantinet dérangeant, non. Sans l'ombre d'une pensée, avec cette seule détermination qui avait fait de lui le survivant d'entre tous, le dernier à avancer, à poursuivre la quête, longtemps après que Cuthbert et les autres eurent péri ou renoncé, qu'ils se furent suicidés, eurent trahi ou simplement abdiqué tout ce qui les rattachait à la tour, avec cette détermination opiniâtre, indifférente, qui l'avait portée au travers du désert et de toutes ces années précédant le désert, dans le sillage de l'homme en noir, le pistolero franchit la porte. 2. Eddie commanda un gin tonic. Débarquer bourré à New York et passer la douane comme ça n'était peut-être pas une idée si lumineuse, et il se savait incapable de s'arrêter une fois qu'il avait commencé. Mais il lui fallait absolument quelque chose.
« Quand tu te sens en pleine descente et que l'ascenseur est introuvable, lui avait dit un jour Henry, Tu dois y arriver par n'importe quel moyen, même si c'est en t'aidant d'une pelle. Puis, après avoir commandé, quand l'hôtesse se fut éloignée, il commença de se sentir comme s'il allait peut-être vomir. Pas vomir à coup sûr, mais vomir peut-être. Et il valait mieux prendre ses précautions. Franchir la douane avec une livre de coke sous chaque bras en empestant le jean n'était déjà pas génial. Faire la même chose avec du dégueulé sur le pantalon, c'était la bérésina. Donc, méfiance. Le malaise allait probablement passer comme d'habitude, mais on n'était jamais trop prudent. Le problème, c'est qu'il était parti pour être bientôt en manque. Disons que ça se rapprochait. Là aussi, il commençait à en savoir un bout, grâce à l'expérience de cet autre sage et éminent junkie, Henry Dean. Ils se tenaient tous les deux installés dans le parc sur la terrasse du Regent's Tower, pas tout à fait sur le point de piquer du nez, mais pas loin. La chaleur du soleil sur la figure lessivée, et si bien. Oui, c'était le bon vieux temps quand Eddie venait juste de se mettre à sniffer et que Henry n'avait pas encore touché à sa première shooteuse. « Tout le monde te parle de la phase de manque, » avait dit Henry. « Mais d'abord, il te faut passer par les préliminaires. » Et Eddie, défoncé, complètement parti, s'était mis à glousser comme un malade parce qu'il savait exactement ce dont Henry parlait. Henry, qui s'était juste fendu d'un sourire avant de reprendre. « Dans un sens, les préliminaires, c'est pire que le vrai manque. Au moins, quand t'es en manque, t'es sûr que tu vas gerber. » Sûr des tremblements, sûr que tu vas te mettre à suer au point d'avoir l'impression de te noyer dedans. Mais avant, c'est comme qui dirait la malédiction de l'attente. Eddie se rappelait avoir demandé à Henry comment on appelait ça quand un mec a la poussette. C'est qu'en ces temps, déjà perdus dans les brumes du passé alors qu'ils remontaient à 16 mois à peine, ils avaient solennellement juré de ne jamais devenir. Ce faisait une overdose. « Ça, c'est la phase ultime, » avait répondu Henry. « Pire que de se sentir comme un poulet rôti au four. » Et il avait eu l'air surpris comme quand on dit quelque chose qui se révèle beaucoup plus drôle qu'on ne l'avait pensé. Ils s'étaient regardés, puis ils avaient hurlé de rire dans les bras l'un de l'autre. « Poulet rôti, oh le gag !» Pas tant que ça, maintenant. Eddie remonta l'allée, dépassa le fils et se planta devant les gogues. Libre, il ouvrit la porte. Dis, Henry, ô grand frère, grand sage et éminent junkie, tant qu'on est dans la catégorie compagnon à plumes, tu veux entendre ma définition du pigeon rôti? C'est quand, à Kennedy Airport, les types des douanes se disent que vraiment t'as une drôle de touche, et que tu tombes sur l'un de ces jours où ils ont amené leur chien au nez diplômé, et que tous ces cabots se mettent à aboyer et à pisser partout, qu'ils tirent sur leur chaîne à s'en étrangler, et que c'est contre toi qu'ils en ont. Et qu'ensuite, après avoir éparpillé tout ce que tu avais dans tes valises, les types t'emmènent dans la petite pièce et te demandent si ça ne te ferait rien d'enlever ta chemise, et que tu leur réponds « Mais si, ça me ferait, un max, j'ai chopé un petit rhume aux Bahamas, et avec votre climatiseur réglé sur froid polaire, ça pourrait bien tourner à la pneumonie », et qui te disent « Tiens, tiens, vous êtes toujours en âge quand le climatiseur fait trop bien son boulot ? Bon, ben, faudra nous excuser, monsieur Dean, mais on y tient, retirez votre chemise, et tu le fais. Et alors ?» Ils te disent qu'après tout, vaudrait mieux ôter aussi ton t-shirt, car t'as l'air d'être un cas clinique. Ouais, mon gars, ces grosseurs sous tes aisselles, ça pourrait bien ressembler à des tumeurs lymphatiques ou à des trucs du même genre, et tu te donnes même pas la peine d'ajouter quoi que ce soit. C'est comme le joueur au centre du terrain, quand il ne se donne pas la peine de poursuivre la balle qui a été cognée, il fait que se retourner pour la regarder filer à péta ou schnock. Quand c'est parti, c'est parti. Tu enlèves donc ton t-shirt. Et visez-moi ça, les mecs. C'est qu'il est du genre vénard. Ce sont pas des tumeurs. À moins que ce soit ça, les tumeurs du corps social. Waf, 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 pour sûr, on dirait plutôt des sacs en plastique, maintenus par du sparadrap. Et à ce propos, petit gars, pour l'odeur, te fais pas de bile. C'est seulement le pigeon. Il est archi-cuit. Il passa la main derrière lui, bascula le loquet. La lumière explosa dans les toilettes. Le bruit des moteurs n'était plus qu'un bourdon assourdi.
Il se tourna vers la glace, histoire de mesurer les dégâts, et, soudain, terrifiante, pénétrante, une sensation le submergea, celle d'être observé. « Arrête, mec !» se dit-il, mal à l'aise. « Théoriquement, il n'y a pas un type au monde qui soit moins parano que toi. C'est pour ça qu'on t'a expédié là-bas. C'est pour ça... » Mais brusquement, ce fut comme si ce n'était pas ses yeux dont le miroir lui renvoyait l'image. Pas les yeux noisettes, presque verts, des didines qui avaient fait fondre les cœurs à qui mieux mieux et lui avaient fait écarter tant de jolies paires de cuisses dans les 3 dernières années de ses 21 années d'existence. Non pas ses yeux, mais ceux d'un étranger. Et non pas noisettes, mais du même bleu qu'un Lévis délavé. Des yeux glacés, précis, merveilleux. Des yeux de bombardier. Et il y vit, reflété, nettement, sans erreur possible, une mouette qui descendait raser un brisant pour en extraire quelque chose. Il eut le temps de penser. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Puis, sut que ça n'allait pas passer, qu'il était bel et bien sur le point de gerber. Dans la demi-seconde qui précéda cet instant, dans cette demi-seconde où il continua de se regarder dans la glace, il vit s'effacer les yeux bleus, mais pas avant d'avoir eu la soudaine sensation d'être deux personnes, d'être habité, comme la petite fille dans l'exorciste. Il sentait distinctement un autre esprit à l'intérieur du sien. Il entendait une pensée, non pas comme l'une des siennes, plutôt comme une voix à la radio. « Je suis de l'autre côté. Je suis dans la diligence du ciel. » Il y eut d'autres mots, mais Kédidine ne put entendre occupé qu'il était à vomir le plus discrètement possible. La crise passée, alors qu'il allait s'essuyer la bouche, il se produisit quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. L'espace d'un épouvantable instant, il n'y eut rien. Juste un intervalle vide. Comme si, dans un journal, une petite ligne dans une colonne avait été soigneusement, totalement caviardée. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa Eddie désemparé. « Bordel de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Puis, il lui fallut de nouveau vomir. Et c'était peut-être pas plus mal. Quelques défauts qu'on lui trouve, la régurgitation a au moins ce mérite. Aussi longtemps que ça dure, il est impossible de penser à autre chose. 3. Je suis de l'autre côté. Je suis dans la diligence du ciel, se dit le pistolero. Et une seconde plus tard, il me voit dans la glace. Roland se mit en retrait, ne quitta pas les lieux, mais se mit en retrait, comme un gosse qui va se poster tout au bout d'une très longue pièce. Il était à l'intérieur du véhicule céleste, mais aussi à l'intérieur d'un homme qui n'était pas lui, à l'intérieur du prisonnier. Dans ce premier instant, quand il s'était retrouvé presque à l'avant, c'était la seule description qu'il put donner, il n'avait pas fait qu'être à l'intérieur de cet homme, il avait été pratiquement lui. Il avait senti que ça n'allait pas, quelle que fût la nature du malaise, que la nausée montait. Il comprit qu'il pouvait au besoin prendre le contrôle de ce corps, qu'il en connaîtrait les souffrances et serait chevauché par ce démon singe dont son hôte était la monture, certes, mais qu'il en était capable si nécessaire. Comme il pouvait choisir de rester en retrait, inaperçu. Quand les vomissements cessèrent, il bondit, au premier plan cette fois, directement. La situation lui échappait pour l'essentiel, et agir ainsi dans le brouillard, c'était s'exposer au pire, mais il avait besoin de savoir deux choses, un besoin si désespéré qu'il l'emportait sur toute conséquence susceptible de se faire jour. Cette porte qu'il avait franchie pour venir de ce monde, existait-elle encore? Et si oui, son corps l'attendait-il là-bas, évanoui, inoccupé, mourant peut-être, voire déjà mort sans le moi de son moi pour veiller à la bonne marche des poumons, du cœur et des nerfs. Aurait-il survécu, qu'il n'en aurait plus pour longtemps, de toute manière, jusqu'à la tombée de la nuit, quand les hommes monstruosités sortiraient poser leurs questions et se mettraient en quête de leur dîner? Il tourna brusquement cette tête qui pour l'heure était la sienne. La porte était toujours là, dans son dos, ouverte sur son monde, ses gonds disparaissant dans la paroi d'acier de ses singulières latrines. Et lui aussi était là, lui, Roland, le dernier pistolero, couché sur le côté, sa main bandée plaquée sur l'estomac. « Je respire toujours, » constata-t-il. « Je vais y retourner et me déplacer. Mais j'ai des choses à faire avant. Des choses... » Il lâcha de nouveau l'esprit du prisonnier et battit en retraite, observa, attendit de voir si l'autre avait ou non conscience de sa présence. 4. La crise passée, Eddie resta penché sur le lavabo, les yeux fermés, paupières crispées. Une seconde de passage à vide. Je sais vraiment pas ce que c'était. Est-ce que j'ai regardé autour de moi? Il chercha le robinet à tâtons et fit couler l'eau froide, s'en aspergea les joues et le front, les yeux toujours clos. Puis, ce fut impossible à éviter plus longtemps. Il se regarda de nouveau dans la glace. C'était ses yeux. Pas de voix étrangère dans sa tête. Pas la moindre sensation d'être observé.
« Tu viens de nous faire une petite fugue, Eddie ?»
l'éclaira le grand, sage et éminent junkie. « Ça n'arrivera quand on arrive au premier stade du manque. » Eddie jeta un coup d'œil à sa montre. Encore 1 heure et demie avant New York. L'atterrissage était prévu pour 4h05, heure de la côte est, mais en réalité, il était presque midi. L'heure d'abattre son jeu. Il retourna s'asseoir. Son verre l'attendait. Il y avait 2 fois trempé les lèvres quand l'hôtesse réapparut, lui demandant s'il désirait autre chose. Il ouvrit la bouche pour dire non, et il eut une autre de ses absences étranges. 5. Oui, vous n'auriez pas quelque chose à manger, dit le pistolero par la bouche d'Eddie Dean.
Nous servirons un repas chaud dans...
C'est que j'ai vraiment faim, dit Roland parfaitement sincère. N'importe quoi, même un popkin.
Un popkin, répéta la fille en uniforme.
Elle lui lança un drôle de regard et il se retrouva fouillant l'esprit du prisonnier. Sandwich. Mot lointain comme un murmure entendu dans une coquille.
Oui, même un sandwich, dit le pistolero.
La soldate eut l'air indécis.
Je dois en avoir, au thon.
Ce sera parfait, répondit Roland, bien qu'il n'eût pas la moindre idée de ce que pouvait être du thon.
Je vous ai vue toute pâle, dit-elle, et j'ai pensé que vous aviez peut-être le mal de l'air.
Seulement faim. Elle le gratifia d'un sourire professionnel.
Bon, je vais voir ce que je peux déchiner.
Déchiner, se répéta Roland ahuri. Dans son monde, le verbe déchiner signifiait en argot prendre une femme de force. Aucune importance, il allait avoir à manger. Il ignorait encore comment il allait se débrouiller pour ramener cette nourriture au corps qui en avait tant besoin, mais chaque chose en son temps. Déchiner, pensa-t-il encore une fois, et quelque chose comme une mimique incrédule anima les traits d'Eddie Dean. Puis le pistolero se mit de nouveau en retrait. 6.
Les nerfs, lui assura le grand oracle et éminent junkie. Les nerfs, c'est tout. Rien de plus normal quand on fait l'expérience du manque.
Mais si c'était les nerfs, comment expliquer cette étrange torpeur qui s'emparait de lui? Étrange, parce qu'il aurait dû être à cran, avoir envie de se tortiller, de se gratter, comme toujours avant les vrais tremblements. Même s'il n'était qu'à ce stade de préliminaire, comme disait Henry, restait le fait qu'il allait tenter de passer la douane avec 1 kilo de coke, crime passible de rien moins que 10 ans de prison fédérale. Et voilà que par-dessus le marché, il se mettait à avoir des absences. Pourtant, cette torpeur. Il prit encore une gorgée de gin et laissa ses yeux se fermer. Pourquoi t'es-tu évanoui? Si j'avais fait ça, elle aurait rappliqué avec leur trousse de premier secours.
Décollé, alors? C'est pas très bon non plus. Ça ne t'est jamais arrivé.
Piqué du nez, oui, mais décollé, jamais.
Quelque chose de bizarre aussi dans sa main droite. Il y sentait des élancements sourds, comme s'il s'était donné un coup de marteau. Il la plia sans rouvrir les yeux. Pas de douleur, pas d'élancement, pas d'yeux bleus, d'yeux de bombardier. Quant aux absences, il fallait n'y voir qu'une combinaison de cet état de poulet frais avec une bonne dose de ce que le grand oracle, éminent junkie, etc. aurait sans nul doute appelé le blues du passeur.
N'empêche que je vais m'assoupir, se dit-il. Comment ça se fait?
Le visage d'Henry dériva devant lui comme un ballon lâché.
« Te fais pas de bile, frérot, disait-il. Tout va marcher, comme sur des roulettes. Tu prends l'avion pour Nassau et tu descends à l'hôtel Aquinas. Un mec t'y contacte vendredi soir, un type cool. Il va te bichonner, te laisser le nécessaire pour passer le week-end. Dans la soirée du dimanche, il t'apportera la coke et toi, tu lui donneras la clé de la consigne.
Lundi matin,
routine, tu fais ce que Balazar a dit, c'est au gars de jouer. Il connaît la musique. Lundi matin, vol retour, et comme on te donnerait le bon Dieu sans confession, tu vas nous passer la douane, les doigts dans le nez, si bien qu'avant le coucher du soleil, on sera en train de se taper un steak au Sparks. Toi et moi. Crois-moi, petit frère, ça va aller comme sur des roulettes.
En fait, les roulettes semblaient grippées. Son problème avec Henry, c'est qu'ils étaient comme Charlie Brown et Lucy, à ceci près, qu'il arrivait à Henry de laisser le ballon à Eddie pour qu'il puisse taper dedans. Pas souvent, mais de temps en temps quand même. Eddie avait même songé, au cours d'une de ses stupeurs héroïniennes, à écrire à Charles Schulz « Cher Monsieur Schulz, lui aurait-il dit dans sa lettre, vous ratez quelque chose en faisant que Lucy retire toujours le ballon au dernier moment. Il faudrait qu'elle le laisse de temps à autre, que Charlie Brown ne puisse jamais être sûr, vous comprenez? Elle pourrait faire en sorte qu'il shoote deux, trois ou même quatre fois d'affilée, puis plus rien pendant un mois. » Puis encore une fois, une seule. Et de nouveau, trois ou quatre jours où elle retire le ballon. Puis, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà qui ferait flipper le gamin pour de bon.
Eddie savait que ça le ferait flipper. Il le savait par expérience.
« Un type cool, » avait dit Henry.
Mais ce mec qui s'était pointé avec l'accent anglais, le teint jaune et une fine moustache semblant sortir d'un film noir des années 40, sans parler de ses dents carrément ocre qui penchaient toutes vers l'intérieur et faisaient penser à un piège préhistorique.
« Vous avez la clé, seigneur ?» lui avait-il demandé.
« Mais est-on lieu sûr ? Si c'est ce que vous voulez dire.
« Alors donnez-la-moi. »«
C'est pas prévu comme ça. » Vous êtes censé me donner de quoi passer le week-end, puis m'amener la coke dimanche soir. Moi, je vous donne alors la clé. Le lundi, vous descendez en ville, et vous vous en servez pour récupérer autre chose. C'est pas quoi, vu que c'est pas mes affaires.
Soudain, il y eut un petit automatique bleu extra plat dans la main du machin jaune.
Pourquoi vous ne la donnez pas tout de suite, seigneur? Cela m'évitera de perdre mon temps et vous d'y perdre la vie.
Junkie ou pas, Eddie avait des nerfs d'acier. Henry le savait, et, plus important, Balazar aussi. C'était pour ça qu'on l'avait envoyé. La plupart pensaient qu'il y était allé parce qu'il était accro. Il le savait, Henry le savait, Balazar le savait. Mais Henry et lui étaient les seuls à savoir qu'il y serait allé même s'il n'avait jamais touché à la cam. Pour Henry, Balazar n'avait pas été aussi loin dans son raisonnement. Mais Balazar pouvait aller se faire foutre.
Et vous? Pourquoi rangez-vous pas ce truc, espèce de minable? Demanda Eddie. Ou vous avez peut-être envie que Balazar expédie quelqu'un qui vous arrachera les yeux avec un vieux couteau rouillé?
Le type sourit. L'arme disparut comme par magie, et à la place, une petite enveloppe apparut. Il l'attendit à Eddie.
Je plaisantais, vous savez.
Si vous le dites.
Bon, à dimanche soir, fit l'homme déjà face à la porte.
Je crois que vous feriez mieux d'attendre. Machin jaune se retourna, l'air étonné.
Vous pensez peut-être que je vais rester là si j'ai envie de m'en aller?
Je pense surtout que si vous partez et que ce qu'il y a là se révèle être de la merde, c'est moi qui ne serai pas parti demain et vous qui serez dans de sales draps.
L'autre fit demi-tour et Mossad alla s'asseoir dans l'unique fauteuil de la pièce pendant qu'Eddie ouvrait l'enveloppe et en faisait glisser une petite quantité de poudre brun clair.
« Je sais la gueule que ça a, » lança Machin Jaune.
« Ça a l'air moche, mais c'est juste le coupage. En fait, c'est de la bonne. »
Eddie arracha une feuille du bloc posé sur le bureau et sépara du tas quelques grains qu'il prit sur son doigt pour se les frotter sur le balai. Une seconde plus tard, il cracha dans la corbeille à papier.
« Vous en avez marre de la vie, c'est ça? Vous avez un dernier souhait ?»«
C'est tout ce qu'il y a, » lâcha l'homme, plus maussade que jamais. « J'ai une réservation pour demain, » dit Eddie.
C'était faux, mais il ne croyait pas que le type eût les moyens de vérifier. « Sur un vol TWA, je l'ai prise de ma propre initiative pour le cas où le contact serait un connard dans votre genre. Moi, je m'en fiche de tout laisser tomber. C'est même un soulagement. Je ne suis pas fait pour ce genre de boulot. »
Machin Jaune cogita. Eddie se concentra sur son immobilité. Tout en lui, pourtant, brûlait de bouger, de glisser un pied sur l'autre, de sautiller et de se trémousser, de se gratter les endroits qu'il démangeait, de faire craquer ses articulations. Il sentait même ses yeux prêts à dériver vers le tas de poudre brune, bien qu'il sût que c'était du poison. Il s'était piqué à 10 heures et un nombre égal d'heures s'était écoulé depuis. Toutefois, s'il se permettait l'un ou l'autre de ces mouvements, la situation changerait. Le type ne faisait pas que cogiter, il l'observait, tenter d'évaluer sa pointure.
Il se peut que je puisse trouver quelque chose.
Donc, essayez. Mais à 11 heures, j'éteins. J'accroche la pancarte, ne pas déranger sur ma porte, et qui que ce soit qui frappe après ça, j'appelle la réception et je leur dis de m'envoyer quelqu'un pour me débarrasser d'un intrus.
Vous êtes un enculé, dit l'homme dans son impeccable accent britannique.
Erreur. Ça, c'est ce que vous attendiez. Or, c'est pas mon genre. Maintenant, vous allez me faire le plaisir d'être ici avant 11 heures avec un truc que je puisse consommer. Pas besoin que ce soit génial, juste consommable. Ou vous ferez un beau cadavre de connard.
7. Machin Jaune n'attendit pas 11 heures. À 9h30, il était là. Eddie devina qu'il n'avait pas été chercher cette autre poudre plus loin que dans sa voiture. Il y en avait un petit peu plus cette fois. Pas blanche, mais d'un ivoire terne assez prometteur. Eddie la goûta. Correct, apparemment. Mieux que ça, vraiment bonne. Il roula un billet, s'octroya un petit sniff.
Bon, à dimanche donc, lança le type qui se leva.
Attendez, fit Eddie sur le même ton que si c'était lui qui avait le pistolet. En un sens, c'était lui qui l'avait. Une arme nommée Balazar. Balazar était un caïd dans le pays des merveilles new-yorkais de la drogue.
Attendre ? L'autre fit volte-face et regarda Eddie comme s'il le croyait bon pour le cabanon.
En quel honneur ?
Ce que j'en dis, c'est pour vous. Si je suis malade comme un chien avec ce que je viens de m'envoyer, on en reste là. On en reste également là, évidemment, si j'en crève. Mais je me disais que si j'étais seulement un tout petit peu malade, je pourrais vous laisser encore une chance. Comme dans l'histoire où ce mec frotte la lampe et a droit à 3 vœux.
Vous ne serez pas malade, c'est de la chinoise. Si c'en est, dit Eddie, moi je suis Dwight Gooden.
Qui ?
Laissez tomber.
L'homme retourna s'asseoir. Eddie s'installa près du petit tas de poudre blanche disposé sur le bureau de la chambre de motel. La trappe camée, ou quoi que ça ait été, avait depuis longtemps disparu dans les chiottes.
À la télé, l'équipe des Bravos se faisait rétamer par celle des Mets grâce aux bons offices de la WTBS et de l'antenne parabolique géante qui équipait le toit de l'hôtel Aquinas. Eddie sentit comme une vague aura de sérénité qui semblait émaner de l'arrière-plan de son esprit, à ceci près qu'il ne s'agissait pas d'une impression, qu'elle venait réellement de là, de ce faisceau de câbles vivants à la base de sa colonne vertébrale, là où, il le savait pour l'avoir lu dans des revues médicales, s'installait l'assuétude à l'héroïne par un épaississement anormal du tissu nerveux.
« Tu veux décrocher en 5 secs ?» qu'il avait un jour demandé à Henry. « Casse-toi la colonne vertébrale. Tu pourras plus marcher, plus baiser, mais le besoin de te shooter aussi aura disparu. »
Henry n'avait pas trouvé ça drôle. À vrai dire, Eddie non plus. Quand le seul moyen de secouer la guenon qu'on avait sur le dos était de se rompre la moelle épinière au-dessus du fameux faisceau de nerfs, c'est que le singe était du genre Mouse, pas un capucin, pas une de ces mignonnes petites mascottes pour joueurs d'orgue de barbarie, mais un gros vieux babouin vicieux. Il commençait à avoir la goutte au nez. « Bon, ça ira, » finit-il par dire. « Vous pouvez débarrasser le plancher, connard. » Le type se leva.
« J'ai des amis, » dit-il. Il pourrait venir s'occuper de vous, et alors vous me supplieriez de pouvoir me dire où est cette clé.
Pas moi, mec. Il y a erreur sur la personne.
Et il sourit, sans savoir ce que donnait ce sourire. Mais ça ne devait rien avoir de très jovial, car Machin Jaune débarrassa le plancher, le débarrassa vite, et sans jeter un regard en arrière. Quand il eut la certitude que l'autre était bien parti, Eddie fit sa popote, se shoota, dormit. 8. Comme il dormait maintenant. Le pistolero, quelque part dans l'esprit de cet homme, d'un homme dont il ignorait toujours le nom, la canaille que le prisonnier nommait en pensée Machin Jaune, ne l'avait pas su, et partant ne l'avait pas prononcé, assistait à tout cela comme à ces pièces de théâtre qu'on voyait jadis, avant que le monde n'eût changé. Ou pensait ainsi regarder les choses, car c'était le seul spectacle dont il eut l'expérience. Eût-il connu le cinéma que la comparaison se fût instantanément imposée. Ce qu'il ne voyait pas stricto sensu, il l'avait prélevé dans les pensées du prisonnier, dans des associations, en étroit voisinage. Cette histoire de nom restait toutefois bizarre. Il connaissait celui du frère de son hôte, mais pas celui de ce dernier. Évidemment, les noms étaient secrets, par essence, investis de pouvoir. Et d'ailleurs, le nom de cet homme n'importait guère. Deux choses comptaient. Qu'il y eût en lui cette faiblesse de toxicomane et sous cette faiblesse de l'acier, enfoui comme un pistolet dans la gangue de sable mouvant. Douloureusement, il rappelait Cuthbert au pistolero. Quelqu'un approchait. Endormi, le prisonnier n'en prit pas conscience, mais le pistolero, qui ne dormait pas, bondit au premier plan.
9.
Bravo, pensa Jane. Il me dit qu'il a une faim de loup, alors moi je lui prépare quelque chose parce qu'il est plutôt mignon, et voilà que je le trouve en train de roupiller. Puis le passager, une 20aine d'années, grand, vêtu d'un jean à peine décoloré, propre, et d'une chemise écossaise, entr'ouvrit les yeux et lui sourit. « Grand merci, Sai, dit-il, ou du moins crut-elle entendre. Quelque chose de presque archaïque, ou étranger. »« Il dort encore, se dit-elle. C'est tout. »«
De rien. »
Elle lui sourit, son plus beau sourire d'hôtesse, sûr qu'il allait se rendormir et que le sandwich serait encore intact quand viendrait l'heure de manger pour de bon.
Baf, lui avait-on appris à s'attendre à autre chose. Elle regagna l'office pour s'en fumer une. Elle gratta l'allumette qui monta jusqu'à mi-chemin de sa cigarette, puis s'immobilisa, oubliée. Non, ça n'était pas là tout ce qu'on avait appris à Jane.
Si je l'ai trouvé plutôt mignon, c'est principalement à cause de ses yeux noisettes.
Or, les yeux que l'instant d'avant l'occupant du siège 3A venait d'ouvrir n'étaient pas noisettes, mais bleus, et pas de cette douceur azurée des iris de Paul Newman, mais d'un bleu d'iceberg. Il aïe. La flamme avait atteint ses doigts. Elle s'en débarrassa.
« Ça va, Jane ?» demanda Paula.
« Impec, je rêvassais. » Elle gratta une autre allumette et cette fois s'acquitta correctement de sa tâche. À peine eut-elle tiré la première bouffée que l'explication se présenta, parfaitement rationnelle. Il portait des verres de contact. Ce type de verre qui vous change la couleur des yeux. Il était allé aux toilettes, y était resté assez longtemps pour qu'elle s'inquiétât, se demanda s'il n'avait pas le mal de l'air. Avec ce teint pâle, la confusion était possible. Mais non, il y était seulement allé retirer ses verres de contact afin d'être plus à l'aise pour piquer un petit somme. Logique, non?
Il se peut que vous sentiez quelque chose, fit soudain une voix surgie de son passé, d'un passé proche. Un truc qui vous titille, et vous êtes sans doute à même de voir ce qui cloche. Des lentilles colorées. Jane Downing connaissait pour le moins 2 douzaines de personnes qui portaient des verres de contact. La plupart travaillaient pour la compagnie. Aucune n'avait jamais fait de commentaire sur ce choix, mais il avait peut-être été dicté, se disait-elle, par leur sensation unanime que les passagers n'aimaient pas voir le personnel navigant porter des lunettes, que ça les rendait nerveux. Sur tous ces gens, elle en connaissait peut-être 4 dont les verres étaient colorés. Les lentilles ordinaires n'étaient pas bon marché, celles de couleur coûtaient les yeux de la tête. Dans les relations de Jane, les seules capables de lâcher tant d'argent pour ce genre de choses étaient des femmes, toutes futiles à l'extrême. Mais alors, pourquoi les mecs ne seraient-ils pas futiles, eux aussi? C'est qu'il est beau garçon. Non. Mignon, peut-être. Et encore. Avec ce teint blême, il n'était mignon que de justesse. Alors pourquoi ces lentilles de couleur? Les passagers ont souvent peur en avion. Dans un monde où piraterie aérienne et trafic de drogue sont devenus monnaie courante, le personnel volant a souvent peur des passagers. La voix qu'il avait dirigée sur ses pensées était celle d'une des formatrices à l'école des hôtesses, une vieille dure à cuire donnant l'impression d'avoir fait la postale avec Mermoz. Elle leur disait « Ne faites pas taire vos soupçons !» Même si vous oubliez tout ce que vous avez appris d'autres sur la manière de se comporter face à des terroristes effectifs ou potentiels, souvenez-vous d'une chose, ne faites pas taire vos soupçons. Dans certains cas, lors de l'enquête, tout un équipage vous dira qu'il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le type sorte une grenade et gueule, virez sur Cuba où tout le monde à bord va rejoindre le jet stream. Mais dans la plupart des cas, il y en aura toujours un ou deux, généralement stewards ou hôtesses, comme vous le serez dans moins d'un mois, pour dire qu'ils ont senti quelque chose. Comme un titillement. L'impression que le type du fauteuil 91C ou la jeune femme du 5A n'était pas tout à fait normaux. Ils l'ont senti, mais ils n'ont rien fait. Ils n'allaient quand même pas risquer de se faire virer pour ça. On ne met pas un type au fer parce qu'on n'aime pas la façon dont il se gratte. Le vrai problème est qu'ils ont senti quelque chose, puis qu'ils l'ont oublié. La vieille routière du ciel avait levé un doigt carré. Jane Downing, fascinée comme toutes ses condisciples, l'avait écoutée poursuivre. « Si vous sentez ce petit truc qui vous titille, ne faites rien. Mais cela inclut, gardez-vous d'oublier. » Parce qu'il y a toujours une petite chance que vous puissiez étouffer quelque chose dans l'œuf, comme 12 jours d'escale imprévue sur l'aérodrome pourri de quelque état arabe.
Rien que des lentilles de contact colorées, mais... Grand merci, Sai. Mot marmonné dans un demi-sommeil? Ou baragouin maternel qui lui avait échappé? Elle allait rester sur le qui-vive. Décida-t-elle, et se garder d'oublier. 10.
C'est le moment, pensa le pistolero. On va bien voir.
Il s'était trouvé en mesure de passer de son monde à ce corps par cette porte au bord de l'océan. il lui fallait à présent savoir s'il pouvait ou non y rapporter des choses.
Oh, pas y retourner!
Il ne doutait pas de pouvoir, quand il le voudrait, franchir cette porte en sens inverse, réintégrer son corps souffrant, empoisonné. Mais qu'en était-il du reste, des autres objets matériels? Ce qu'il avait devant lui, par exemple. Ce sandwich au thon, comme l'avait appelé la femme en uniforme. S'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un thon, il savait reconnaître un popkin quand il en avait un sous les yeux, encore que, bizarrement, on eût omis de cuire celui-ci. Son corps avait besoin d'être nourri, abreuvé aussi, mais par-dessus tout réclamait des soins. Faute d'un contrepoison, la morsure de l'homme-astruosité promettait d'être fatale. Un tel médicament devait exister dans ce monde où les diligences volaient dans le ciel, plus haut qu'un aigle, dans ce monde où tout semblait possible. Mais à quoi bon disposer ici d'un remède, quelle que fût sa puissance, si tout transfert était impossible?
Tu n'as qu'à vivre dans ce corps, chuchota l'homme en noir dans les profondeurs de son crâne. Abandonne aux crustacés ce qui n'est plus qu'un morceau de viande s'obstinant à respirer, une enveloppe désertée de toute manière.
Non, il s'y refusait. D'abord parce qu'il se fût agi d'un vol particulièrement odieux. Il n'aurait su longtemps se contenter de jouer les passagers, de contempler passivement ce monde par les yeux de cet homme, comme un voyageur regarde défiler le paysage par la fenêtre de son véhicule. Ensuite, parce qu'il était Roland. S'il devait mourir, il voulait que cette mort fût celle de Roland, d'un Roland qui mourait en rampant vers la tour s'il le fallait. Puis, l'étrange et rude sens pratique cohabitant en lui, tel tigre et chevreuil, avec son romantisme, reprit le dessus. Il n'était nullement nécessaire de penser à la mort tant que l'expérience restait à vivre. Il se jeta sur le popkin, le découvrit coupé en deux, et en prit une moitié dans chaque main, puis il ouvrit les yeux du prisonnier, promena un regard circulaire. Personne ne faisait attention à lui. Même si, très fort dans la cuisine, Jane Downing pensait à lui. Il se tourna vers la porte et la franchit avec les deux moitiés du popkin. 11. Le pistolero commença par entendre le rugissement broyeur d'une vague à l'approche, puis les chamailleries d'oiseaux qui, lorsqu'il se redressa en position assise, se soulevèrent en masse des rochers voisins. « Et voilà qui s'enfuit, les salopards, » songea-t-il. « Et que je respire ou non, ils n'auraient pas tardé à m'arracher des lambeaux de chair. Ce sont des vautours, rien que des vautours maquillés. » Ce fut alors qu'il prit conscience qu'une moitié de son popkin, celle qu'il avait dans la main droite, était tombée sur le sable gris grossier. Car s'il la tenait d'une main entière quand il avait franchi la porte, il la tenait à présent d'une main réduite à 40% de ses capacités. Il la pinça et la sura maladroitement entre pouce et annulaire, l'essuya du mieux qu'il put et goûta du bout des dents. L'instant d'après, il la dévorait sans même remarquer le crissement des grains de sable oubliés. Quelques secondes plus tard, il reportait son attention sur la moitié restante. Elle disparut en trois bouchées. Le pistolero n'avait pas idée de ce qu'était un sandwich au thon, sinon que c'était succulent. Et pour l'heure, ça semblait suffire. 12. Dans l'avion, la disparition du sandwich passa inaperçue. Personne ne vit les mains d'Eddie en agripper si sauvagement les deux moitiés que la marque des pouces s'imprima dans le pain de mie. Personne ne le vit s'estomper jusqu'à la transparence, puis s'évanouir, ne laissant que quelques miettes. Une vingtaine de secondes après cet événement des plus discrets, Jane Downing écrasait sa cigarette, traversait l'avant de la cabine pour aller prendre son livre, cédant en fait à sa curiosité pour le 3A. Il avait l'air de dormir à point fermé, mais le sandwich n'était plus sur la tablette. « Seigneur, Il ne l'a pas mangé, il l'a dévoré tout rond. Et pour se rendormir aussitôt. Non, mais tu rêves.
Quoi que ce fût qu'il a titillé à propos du 3A, de monsieur tantôt les yeux noisettes, tantôt les yeux bleus, ça promettait de ne pas se calmer. À coup sûr, il y avait en lui quelque chose de pas clair. De pas clair